Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. À l'occasion du congrès sur les douleurs neuropathiques qui s'est déroulé la semaine dernière à Nice, dans le sud de la France, je vous propose de parler d'une maladie particulièrement douloureuse, le zona. Des plaques rouges sur la peau, des sensations de brûlure, parfois de la fièvre, souvent de fortes douleurs. Le zona correspond à une réactivation du virus de la varicelle. Ce virus de la varicelle contracté dans l'enfance va en fait se loger ensuite dans la racine des nerfs, y demeure. Et des années après, il peut en fait se réactiver sans qu'on sache très bien pourquoi. Une maladie beaucoup plus fréquente que ce qu'on imagine. On estime qu'une personne sur quatre fera un zona au cours de sa vie, d'ailleurs le plus souvent après 50 ans. Une probabilité qui augmente à mesure que l'immunité diminue. L'intensité des douleurs s'accroît avec l'âge et dans certains cas, ces douleurs peuvent persister plus de 3 mois. Mais une prise en charge précoce permet une guérison non seulement plus rapide, mais aussi plus efficace. Alors, quels sont les signes indiquant qu'il s'agit d'un zona? Comment le soigne-t-on? Comment mieux prendre en charge la douleur? C'est ce qu'on va voir avec mon invité, le professeur Nadine Attal, qui est neurologue, responsable du centre de lutte contre la douleur au CHU Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt, en région parisienne, responsable scientifique du congrès qui vient de se dérouler à Nice la semaine dernière. Si vous avez envie de lui poser des questions, appelez-nous au 33 1 84 22 75 75. Dans cette émission, on aura également au téléphone le professeur Akani, qui est chef du service de neurologie au CHU de Boaké en Côte d'Ivoire. Et en fin d'émission, on parlera d'une rencontre internationale qui se déroule en ce moment à Casablanca, consacrée au mariage d'enfants. Professeur Nadine Attal, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous parler, d'être avec nous en direct pour nous parler de cette maladie. Le zona, je l'ai dit, beaucoup plus fréquente que ce qu'on imagine. Je veux bien qu'on prenne tout de suite Augustin, qui a une question à nous poser sur cette maladie. Augustin, bonjour. Vous nous appelez de Djamena au Tchad.
Oui, bonjour Claire, bonjour à toute l'équipe de Priorité Santé.
On vous écoute, Augustin.
En fait, parlant des zona, moi, cette maladie, je l'ai contactée en 2010. En fait, dit que le zona soit une maladie à virus comme la varicelle. Moi, j'ai senti une particularité à cette maladie. Une fois contacté cette maladie, j'ai remarqué cette maladie se caractérise par une brûlure intense, très forte d'ailleurs. Et non seulement ça, elle se caractérise aussi par des vertèbres comme la varicelle.
Oui, oui, on vous écoute. Ah. Et quelle est votre question? Continuez, Augustin, on vous écoute. Quelle est votre question?
Quand j'ai lu le thème d'aujourd'hui, cette maladie, une personne qui est atteinte une fois de la varicelle peut à la longue de sa vie contracter le zona. Et je demande quelle peut être la corrélation entre la varicelle et le zona.
C'est très intéressant votre question, oui. Professeur Nadine Attal, parce qu'effectivement le zona, ça touche qu'une partie du corps. La varicelle, ça donne des boutons sur l'ensemble du corps. Finalement, quel est quand même le lien entre les deux?
Et pourtant, il s'agit du même virus, hein, parce que comme vous l'avez bien dit dans votre introduction, le zona est bien lié à une réactivation du virus de la varicelle. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que on ne peut pas avoir un zona lorsqu'on n'a pas eu la varicelle. Et en revanche, donc lorsqu'on a effectivement la varicelle, le virus en réalité ne disparaît pas totalement. Il va rester présent à l'état latent dans les ganglions nerveux, dans les ganglions sensitifs, et il peut se réactiver beaucoup plus tard, en général à l'âge adulte et surtout d'ailleurs chez la personne âgée, à l'occasion d'une baisse d'immunité. Donc c'est le même virus, le virus de la varicelle zona, qui va rester quiescent, latent, dans le système nerveux, sensitif, et qui va se réactiver à l'occasion d'une baisse d'immunité beaucoup plus tard. Alors la raison pour laquelle effectivement ce n'est pas les mêmes symptômes, c'est qu'en réalité ce virus va se réactiver uniquement dans le système nerveux et donc il va donner à ce moment-là une éruption cutanée dans un territoire très particulier qui est le territoire neurologique et à l'occasion également de ce stress, il va y avoir non seulement cette éruption caractéristique mais une douleur qui a des caractéristiques bien particulières puisqu'elle est liée essentiellement à l'atteinte nerveuse et aussi une atteinte inflammatoire.
Quels sont les premiers symptômes qui doivent alerter? Merci beaucoup hein, Augustin pour cette question. Quels sont les premiers symptômes qui doivent alerter?
Alors à la phase aiguë, on peut d'abord avoir, avant même l'éruption, l'éruption cutanée caractéristique des prodromes, c'est-à-dire des douleurs qui vont précéder l'éruption de quelques jours. Mais cela,
on a l'air juste mal.
On a juste mal. C'est des douleurs d'ailleurs que monsieur l'auditeur a bien qualifié de brûlure. Par contre, le plus souvent, ce qui va alerter le médecin, et d'ailleurs le diagnostic le plus souvent est quand même assez simple à la phase aiguë, c'est qu'il va y avoir cette éruption cutanée caractéristique dans un territoire très particulier, qui est un territoire dermatomal, ça veut dire que ça va toucher une petite partie du corps, généralement d'ailleurs le thorax, et cette éruption, c'est une éruption vésiculaire, qui d'ailleurs, pour le coup, ressemble à la varicelle.
C'est ça, pour le coup, c'est le même genre de petit bouton.
C'est le même genre de petit bouton, mais elle touche un territoire beaucoup plus restreint, qui est un territoire, en fait, neurologique. Et l'éruption elle-même peut être extrêmement douloureuse, hein, à la phase aiguë, le zona se traduit par des douleurs très souvent extrêmement intenses. Donc l'éruption elle-même est beaucoup plus douloureuse que l'éruption de la varicelle, ça n'a rien à voir. L'éruption de la varicelle, elle est assez peu douloureuse en
réalité.
C'est
juste que ça gratte.
Ça gratte, exactement. Alors que l'éruption du zona, non seulement elle gratte aussi d'ailleurs, mais elle donne une douleur extrêmement pénible. Et on peut discuter ensuite de ce que ça peut donner à la suite, mais déjà la phase aiguë du zona est extrêmement douloureuse.
Et on va revenir justement tout au long de cette émission sur la prise en charge de la douleur, l'intérêt d'une prise en charge précoce. Je vous propose d'écouter tout de suite le témoignage d'Alain Jégou. Il a 70 ans. Il souffre depuis 2 ans, alors lui, d'un zona ophtalmique. Il raconte au micro de Tout Neuf Mundi à quel point d'ailleurs justement cette maladie est douloureuse.
Eh bien, j'ai été consulté à un médecin généraliste. J'avais énormément de fièvre depuis quelques jours et j'avais un œil qui pleurait, puis le front qui me brûlait. Alors je pensais que j'avais pris fait une insolation ou pris aussi un courant d'air dans l'œil. Après, comme en consultation, il m'a dit que j'avais un zona. J'étais surpris parce que je pensais être immunisé contre le zona comme j'en avais fait un dans ma jeunesse.
Qu'est-ce que cette maladie a changé dans votre quotidien ?
Le traitement est assez lourd, assez fatigant parce que les médicaments font dormir énormément. Alors je ne peux pas faire grand-chose. Et lorsque je sors au soleil ou au vent, ça m'est souvent à peu près insupportable. J'ai le globe oculaire qui me gêne, la paupière qui me pique. J'ai aussi comme une épine qui est plantée dans l'arcade et qui me fait souffrir lorsque j'appuie et qui me laisse des douleurs comme si j'avais toujours une plaie qui ne guérissait pas. Et ça, je l'ai tous les jours. Et au niveau du frontal, j'ai des brûlures. Et par moments, au niveau du cuir chevelu, comme si des moustiques m'avaient piqué, j'ai énormément de démangeaisons. Donc je m'arracherai le cuir chevelu, quoi, tellement que ça me fait souffrir.
En dehors du traitement, est-ce que vous avez des gestes, des habitudes pour essayer de vous soulager quand ça vous prend comme ça, des douleurs ?
Oui, pour me soulager, quand j'ai beaucoup de douleurs, je m'allonge. Et les douleurs disparaissent tout doucement. Et puis bon, comme je prends beaucoup de médicaments pour éviter les douleurs, je m'endors. Pendant 3 ou 4 heures, souvent tous les après-midi. Autrement, pour faire aussi partir le mal, j'appuie sur la douleur pour qu'elle soit plus intense. Et tout doucement, elle disparaît par la suite. Sur mon visage, ça ne se voit pas, à part la paupière qui est un peu, peut-être, souvent assez rouge. Mais bon, je le ressens énormément parce que c'est les nerfs qui souffrent. Et la peau, apparemment, n'a rien, mais elle est brûlée. Si je touche mon visage, mon front, c'est comme si je touchais une plaie à vif, comme s'il n'y avait plus de peau.
Et en période de beau temps, c'est encore plus compliqué, plus difficile pour vous ?
Ben, j'évite d'aller trop au soleil. Je porte une casquette, je me protège par des lunettes de soleil. Mais sur le front, la casquette au départ me brûle. Puis après, ça disparaît. Par contre, si j'ai trop chaud et si je transpire, je suis obligé d'enlever. Ça me brûle trop.
En quoi le fait qu'il s'agisse d'une maladie très peu connue change-t-il ou pas quelque chose ?
Pour les proches, c'est pas évident. Et moi, j'ai tendance à m'isoler. Lorsque vous avez des douleurs continuelles et très très fortes, vous n'avez plus envie de voir qui que ce soit. Souvent, mes copains aimeraient bien que j'aille avec eux, mais je refuse parce que je préfère rester tranquille, au repos. bon, c'est pas facile, mais bon, j'essaye de quand même d'avoir des activités et puis un peu de plaisir encore, parce que moi j'aime beaucoup la pêche et j'espère que je pourrai encore faire quelques belles parties.
Priorité santé sur RFI.
Aujourd'hui, nous parlons du zona avec le professeur Nadine Attal du CHU Ambroise-Paré à Boulogne-Billancourt. On vient d'entendre le témoignage d'Alain Jégou, qui est d'ailleurs un de vos patients. C'est très intéressant, vous allez réagir sur cette histoire. D'abord, vous nous aviez dit qu'en général, c'est plus fréquent sur le thorax, mais il y a aussi effectivement ce zona ophtalmique.
Absolument. Alors, écoutez, tout à fait, monsieur Jégou présente un cas tout à fait caractéristique de douleur post-zostérienne. C'est vraiment la douleur qui dure plusieurs mois, plusieurs années, quelquefois après un zona aigu, et de douleur post-zostérienne ophtalmique. Et de fait, la localisation ophtalmique, elle est beaucoup plus rare que la localisation thoracique, mais malheureusement, ce sont des localisations qui sont particulièrement douloureuses. La prévalence des douleurs est plus élevée, l'intensité douloureuse est plus élevée en cas de localisation ophtalmique. Ce qui est tout à fait caractéristique, c'est qu'il décrit très bien, malheureusement, les caractéristiques symptomatiques de sa douleur, qui ne ressemblent pas aux autres douleurs, qui sont des douleurs neuropathiques, c'est-à-dire des douleurs générées par une lésion de nerf, et qui associent notamment des phénomènes de brûlure. Alors lui, il a mentionné le terme de plaie, mais c'est vraiment tout à fait ça. Des démangeaisons, dans le zona, c'est très extrêmement fréquent les démangeaisons, et ce qui est insupportable chez certains patients, et qu'il d'ailleurs mentionne tout à fait, c'est cette douleur au moindre contact, à l'effleurement, voire au contact du chaud, donc il dit qu'il peut pas aller au soleil, et c'est ce qu'on appelle, sur un plan médical, c'est un mot qu'on appelle allodynie, c'est une douleur induite par une stimulation qui normalement n'est pas douloureuse.
Et donc, comme le soleil en l'occurrence.
Comme le soleil en l'occurrence, ou le moindre contact, le moindre frottement, l'effleurement de la peau. Et ces symptômes sont tout à fait caractéristiques de ce qu'on appelle la douleur post-zostérienne, qui est donc effectivement liée au zona, mais qui survient comme une complication du zona aigu et qui peut malheureusement, contrairement au zona aigu, durer plusieurs mois, voire plusieurs années.
Alors justement, quel est le traitement? Si on prend un zona de base, quel est le traitement? Et puis après, on va voir dans les complications quand il y a des douleurs aussi intenses que celles que vit Alain.
Alors, il faut distinguer donc effectivement deux phases. La phase aiguë, qui est une phase aiguë inflammatoire et neuropathique. Et à cette phase aiguë, le traitement doit associer d'une part un traitement local le plus souvent antiseptique. Ça, c'est effectivement souvent, d'ailleurs les dermatologues voient les cas de zona aiguë le plus souvent. Un traitement antiviral à la phase aiguë, parce qu'il a quand même été démontré que ces traitements atténuaient au moins la douleur aiguë. Donc ils atténuent l'infection aiguë. Et on a maintenant un certain nombre d'antiviraux disponibles sur le marché, qu'on doit donner d'ailleurs dans les 72 premières heures pour qu'ils soient efficaces.
D'où l'importance de consulter suffisamment tôt.
Il faut consulter le plus tôt possible. Et à ce stade de douleur aiguë, puisque la douleur est pratiquement toujours présente dans le zona aiguë, il faut donner des antalgiques et ou des anti-inflammatoires. Mais il faut donner des traitements contre la douleur. Le gros problème, c'est que malgré ces traitements à la phase aiguë, antiviraux et antalgiques, on a un sous-groupe de patients, comme le patient dont on a entendu parler tout à l'heure, le patient qui a essayé d'exprimer, qui développe des douleurs chroniques, qu'on appelle donc post-zostériennes, et ce, malgré une prise en charge de bonne qualité. Et c'est toute la difficulté de la gestion de ces douleurs chroniques, qui d'ailleurs est souvent différente de la gestion de douleurs aiguës.
Est-ce qu'on sait un peu quel est le pourcentage qui développe justement ces douleurs chroniques?
Alors tout à fait, on a des chiffres qui viennent d'ailleurs de données épidémiologiques françaises. Il y a eu une grosse étude menée en France qui s'appelle Arizona et qui a porté sur plus de 1000 cas de zona suivis en médecine générale pendant un an. Et en moyenne, par exemple, à 3 mois, c'est environ 12%, toutes catégories d'âge confondues. Mais il faut savoir que la prévalence et l'intensité des douleurs augmentent avec l'âge. Donc c'est en réalité beaucoup plus que ça, par exemple, à 70 ans et plus.
Si on n'a pas ces complications, cette phase aiguë et de traitement, elle dure combien de temps? Et quand même, pour une majorité des gens, après, ils n'en entendent plus parler, finalement.
Heureusement, en moyenne, la phase aiguë dure 3 semaines à 1 mois. C'est le temps également mis pour l'éruption de guérir. La douleur aiguë peut durer en général, je vous dis, 3 semaines à 1 mois. Et comme je vous l'ai dit, malheureusement, on a un sous-groupe de personnes qui vont rester handicapées pendant des années malgré un traitement précoce.
Et c'est là qu'il faut prendre en charge la douleur. C'est là que vous intervenez avec un centre antidouleur.
Et c'est là qu'il faut prendre en charge la douleur. Et les traitements antalgiques qu'on donne à la phase chronique ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux qu'on donne à la phase aiguë, parce que malheureusement, à la phase chronique qui est purement neuropathique, donc uniquement liée à une lésion nerveuse, qui est la lésion donc du zona, les traitements antalgiques de type paracétamol ou anti-inflammatoire, aspirine, ne marchent plus du tout. Donc il faut envisager d'autres catégories de médicaments, souvent beaucoup plus lourds. Et d'ailleurs, le
C'est-à-dire quoi, la morphine, par exemple?
Non, alors, la morphine, c'est en dernier lieu. C'est plutôt des catégories de médicaments qui sont un peu différents, qui sont certains antidépresseurs, certains antiépileptiques, qui marchent à peu près, on va dire, sur la douleur chronique, mais au prix, souvent, de beaucoup d'effets indésirables. Et on a maintenant, heureusement, de nouveaux traitements qui sont des traitements topiques, c'est-à-dire qu'on peut appliquer localement.
Dans ce dont nous parlait comme effet secondaire, Alain, c'est-à-dire que ça le fatigue beaucoup et que du coup, il dort dans la journée quand il a pris ses traitements.
Exactement, et donc on peut dire que la qualité de vie qui est donc la conséquence de la douleur chronique, elle est totalement altérée, elle est complètement altérée du fait de la douleur elle-même, donc les malades ont une vraie altération de leur qualité de vie, mais elle m'est aussi malheureusement un peu altérée à cause des traitements eux-mêmes qui vont donner des atteintes cognitives, qui vont donner une fatigue, une somnolence, des troubles de l'équilibre. Donc c'est assez compliqué à traiter.
On a Fatoumata qui nous appelle de Guinée-Conakry. Fatoumata, bonjour.
Bonjour Claire et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
On vous écoute.
Alors, pour commencer, je veux juste vous raconter une petite histoire concernant le zona qui m'a pris en 2012, avril 2012. Bon, au début, j'avais un petit bouton sur le côté gauche, entre mes hanches et les fesses, et jusqu'au niveau de mon bas-ventre, toujours côté gauche. Et ça commence avec un petit bouton et trois jours après, je me suis retrouvée avec une plaie pas possible, avec des brûlures et des... mon corps me chauffait beaucoup. Tous les jours, j'avais mal et je pouvais pas du tout rester à la maison. Je suis allée voir un médecin, ils m'ont prescrit des produits. Et finalement, c'est devenu une plaie, comme l'a dit le premier auditeur, c'est devenu une grande plaie sur moi. Et après le traitement, les cicatrices sont toujours là. Et jusqu'à présent, je n'arrive pas à sentir ma peau. C'est-à-dire, quand ça me démange et que j'arrive à gratter la partie, je ne sens pas. Donc, c'est pourquoi je vous ai écrit, et pour savoir si réellement on peut avoir un traitement pour alléger ces cicatrices. Il existe...
Ouais. Et est-ce que c'est encore très douloureux, Fatoumata?
Jusqu'à présent, je n'ose même pas toucher la partie, ça me fait très mal jusqu'à présent.
Professeur Nadine Attal.
Alors, il y a plusieurs aspects dans cette question. Effectivement, il y a d'une part le problème et qu'on a évoqué ensemble tout à l'heure de la douleur chronique post-ostérienne, puisque cette auditrice non seulement ne sent pas sa peau, mais en plus a une douleur dans une partie qui ne sent plus. C'est typique de certaines douleurs neuropathiques au cours du zona, et effectivement dans certains cas de zona avec complications et donc douleurs post-ostérienne, on va avoir des cas où il y a ce qu'on appelle une désafférentation, c'est-à-dire qu'on a un déficit, une perte complète de la sensibilité qui s'associe paradoxalement à une douleur intense.
Ce qui est étonnant.
Ce qui est tout à fait étonnant, mais ce qui est tout à fait explicable actuellement par un certain nombre de mécanismes physiopathologiques assez complexes. Et ça, c'est un sous-groupe de zona. Et dans ces cas-là, malheureusement, il faut des traitements spécifiques dont on vient de dire un mot rapidement. Certains antiépileptiques ou certains antidépresseurs. Les antalgiques ne marchent pas. Et même les traitements locaux ne marchent pas bien puisque les patients ne sentent plus, justement. Donc, on peut au moins améliorer la composante positive, c'est-à-dire la douleur elle-même. En revanche, ce qui est regrettable, c'est qu'on n'a pas les moyens de faire retrouver à cette dame sa sensation perdue. Et ça, malheureusement, ça n'est pas possible puisque la sensation perdue témoigne directement de la lésion nerveuse. Et on n'a pas encore actuellement les moyens de réparer cette lésion. On peut donc améliorer considérablement quand même dans certains cas la douleur, mais pas la perte de la sensibilité.
Et sur l'aspect esthétique?
Alors sur l'aspect esthétique, c'est encore un troisième aspect. Là, je pense qu'il faut voir s'il existe ou non des véritables cicatrices inesthétiques. L'aspect esthétique, ça nécessite quelquefois l'intervention d'un dermatologue. De temps en temps, on peut recourir à des traitements, mais ils sont pas dans le cadre d'une indication habituelle comme le Botox, qui peut améliorer certaines cicatrices inesthétiques. Et je pense que cette dame voit pour la aspect purement esthétique, un dermatologue.
En tout cas, ce qui est important, c'est de reconsulter sur les questions de douleur. Et vous avez parlé de ces traitements à la fois antidépresseurs, antiépileptiques, qui peuvent donner de bons résultats dans la situation de Fatoumata. Merci beaucoup, hein, Fatoumata, pour votre intervention. Et surtout, bon courage à vous, parce qu'on le comprend bien, c'est très douloureux. On se retrouve dans 3 minutes, juste après les informations, toujours pour parler du Zona.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous parlons du Zona à l'occasion d'un congrès sur les douleurs neuropathiques qui s'est déroulé la semaine dernière à Nice, dans le sud de la France. Mon invité est la responsable justement scientifique de ce congrès, le professeur Nadine Attal, neurologue, responsable du Centre de lutte contre la douleur au CHU Ambroise-Paré à Boulogne-Billancourt en région parisienne. Et vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, continuer à nous appeler au 33 1 84 22 75 75. Dieudonné qui nous appelle de République démocratique du Congo. Dieudonné, bonjour.
Oui, bonjour Claire.
Vous avez une question à poser sur le Zona, on vous écoute.
Oui, moi souvent j'entends qu'on parle de Zona et de VIH. Alors je voulais savoir si on peut souffrir le Zona sans le VIH-SIDA, ou bien on peut avoir le VIH-SIDA sans le Zona.
Est-ce que les deux sont forcément liés? Alors, c'est une question effectivement intéressante. On a eu beaucoup d'auditeurs qui nous ont posé des questions comme ça sur les liens entre VIH et Zona. Professeur Nadine Attal, quel est le lien en fait?
Alors le lien en fait, c'est simplement que le VIH le plus souvent donne une baisse d'immunité, et du fait de cette immunodépression,
c'est-à-dire une baisse des défenses immunitaires.
Baisse des défenses immunitaires, exactement. Et du fait de cette baisse des défenses immunitaires, le risque de Zona aigu est plus important. En réalité, il faut savoir que ce n'est pas le seul risque de développer un Zona. Toute baisse des défenses immunitaires peut malheureusement être un risque de susciter un Zona aigu. Par exemple, un cancer, une chimiothérapie, une corticothérapie, des corticoïdes au long cours. Donc en réalité, c'est un lien indirect, comme on peut l'avoir avec d'autres baisses d'immunité. Donc il faut bien sûr savoir que, comme l'auditeur posait la question, est-ce qu'on peut avoir le Zona sans avoir le VIH? Bien évidemment. Le plus souvent d'ailleurs, on a un Zona sans avoir le VIH. C'est simplement un facteur de risque de développer un Zona aigu.
Et ça touche, je l'ai dit en début d'émission, surtout des personnes de plus de 50 ans, justement parce que c'est lié à cette baisse des défenses immunitaires.
Alors tout à fait, la prévalence et la sévérité d'ailleurs du Zona augmente avec l'âge, et également le risque de développer des douleurs post-zostériennes augmente considérablement avec l'âge. Il est extrêmement faible à 50 ans en réalité, il est presque inexistant avant 40 ans. Et en revanche, il augmente considérablement après 70 ans et 80 ans et plus.
C'est ça, non seulement on a plus de risques d'en déclencher un, mais plus douloureux en plus.
Plus douloureux, avec plus de risques de douleurs chroniques.
On a au téléphone le professeur, merci beaucoup pour cette question en tout cas, Dieudonné. On a au téléphone le professeur Aïe-François Akini, qui est chef du service de neurologie au CHU de Boisquet, en Côte d'Ivoire, membre du groupe expert Club Douleur Afrique. Professeur Aïe-François Akini, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous en direct dans Priorité Santé. Est-ce que vous avez un peu des chiffres sur la fréquence du Zona en Côte d'Ivoire?
Oui, je ne saurais vous donner de fréquences bien précises, aussi bien au niveau de la population générale que au niveau hospitalier. Mais cependant, on note pas mal de cas, ce que nous recevons à l'hôpital. Alors, dans le service de neurologie, vous avez 3 à 4 cas de Zona au cours de nos consultations hebdomadaires.
On a eu un message de Gérard qui nous a dit le Zona est appelé ceinture en Afrique de l'Ouest. Effectivement, c'est ça, professeur Akani?
Oui, c'est bien ça. C'est bien le terme, oui. On dit araignée ou ceinture, parce que comme les signes se manifestent sur le trajet d'un dermatome, c'est-à-dire sur le trajet d'un nerf, donc ça donne l'image d'une ceinture, effectivement. Anémie ceinture ou en ceinture, voilà.
C'est un terme utilisé. D'accord, donc très bien. C'est le terme utilisé en Afrique de l'Ouest sur le mot ceinture.
Oui.
Quels sont les...
Ceinture,
oui. Professeur Akani, quels sont les traitements dont vous disposez? On a vu, et je pense que vous avez dû entendre ce qu'a dit le professeur Nadine Attal dans la première partie de l'émission sur les traitements au moment de la phase aiguë et puis après les traitements contre la douleur. Est-ce que tous ces traitements, justement quand c'est plus compliqué, antidépresseurs, antiépileptiques, est-ce que tous ces traitements, vous en disposez à Boisquet?
Ah oui, tout à fait. Sur ce plan, il n'y a aucune inquiétude par rapport à nos patients. À la phase aiguë, bien sûr que la douleur, compte tenu de l'intensité de la douleur, nous donnons des antalgiques classiques. Hein, et puis bien sûr, pour enrayer le processus viral, nous donnons des antiviraux, d'une part. Mais dans la phase de séquelles douloureuses, à titre de douleur neuropathique, nous disposons de pas mal de médicaments, les tricycliques, les antiépileptiques, comme tels que la carbamazépine ou même les benzodiazépines, hein, qui marchent très bien, le Rivotril, médicaments plus ou moins interdits en Europe, en France en particulier. Et puis, vous avez
interdit, c'est-à-dire c'est plutôt qu'on a avancé, on a des traitements plus évolués là-dessus, non? C'est ça, professeur Nadine Attal?
Oui.
Je voudrais que le professeur Nadine Attal réagisse là-dessus.
Alors, effectivement, jusqu'à il y a quelques années, en France, on donnait aussi beaucoup de benzodiazépines pour traiter la douleur chronique associée au zona, ou d'autres douleurs d'ailleurs neuropathiques. Et en particulier, monsieur a mentionné le Rivotril, je donne le nom de marque, mais oui. en fait, qui est un traitement qui a beaucoup été prescrit en France et qui, je pense, est encore beaucoup prescrit en Afrique. Alors, le problème maintenant, c'est que l'utilisation de cette benzodiazépine est soumise à des restrictions de la part de la Haute Autorité de Santé, parce que c'est un traitement en réalité qui, au long cours, comme c'est une benzodiazépine, peut donner des dépendances. Donne des troubles cognitifs, notamment chez la personne âgée, est aussi très difficile à arrêter. Et surtout, le gros problème de ce traitement, c'est qu'en réalité, il n'a pas réellement fait ses preuves dans les douleurs post-ostériennes ou même dans les douleurs neuropathiques en général. Et donc, en l'absence de preuves absolues d'efficacité, il est maintenant recommandé de ne plus le prescrire dans les douleurs neuropathiques.
Et du coup, vous prescrivez quoi, comment?
Alors, on donne d'autres types d'antiépileptiques qui, eux, ont fait leurs preuves, comme par exemple la gabapentine, qui, je crois, est disponible dans beaucoup de pays d'Afrique, et la prégabaline.
Professeur Akani, effectivement, c'est aussi disponible?
Oui, c'est aussi disponible, mais bon, je reviens...
Le problème, c'est le coût.
Je reviens sur les benzodiazépines. Nous, on a une efficacité, ça c'est... Si tous les neurologues du pays vont vous le confirmer, avec la benzodiazépine à des doses progressives, on arrive à soulager de façon durable les malades. Les malades, ça... Nous, on compte en prescrit, malgré les restrictions qui ont lieu au niveau de l'Europe, mais... l'efficacité est encore réelle, et surtout que chez nous, avec les nouvelles molécules antidouleurs, qui sont très chères, la population est mal couverte au point de vue des remboursements.
Couverture maladie, oui.
Nous, on maintient toujours, on prescrit toujours les anciennes molécules qui ont prouvé leur efficacité.
Parce qu'elles sont pas chères et aussi parce qu'elles sont beaucoup moins chères. Professeur Akani, quel est le regard sur cette maladie, sur le zona? Quel est le regard que la population porte sur le zona?
Ben justement, c'est une très bonne question, parce que ici déjà, le zona, dans la population, il y a un lien étroit avec le VIH-SIDA. Voilà. Donc tout de suite, les patients sont stigmatisés. Justement de ce terrain.
Et du coup, ils ont quoi? Peur que ce soit contagieux?
Voilà, c'est ça. Donc, il y a une méfiance extrême, le contact, le refus de l'autre, et même progressivement avec la sensibilisation, on essaie de les amener à comprendre que le zona peut relever d'autres causes.
Mais c'est ça, pas que le sida. Tout à fait.
Oui, voilà.
Professeur Nadine Attal, une réaction sur cette question du regard. En France aussi, il y a une peur, finalement, liée au zona. Tout le monde est persuadé que c'est contagieux.
Alors, il y a une peur, effectivement, mais il y a peut-être une méconnaissance des risques potentiels. C'est-à-dire que tout le monde a entendu parler du zona, mais très peu de gens connaissent le risque essentiel qui est la douleur post-ostérienne. Très peu de gens le connaissent. Donc, en réalité, le zona fait peur parce qu'effectivement, ils savent, la plupart des gens, même qui n'en ont pas eu, ont eu des proches qui en ont eu, parce que le zona aigu, en réalité, c'est très fréquent. Donc, on a toujours un proche qui a eu un zona au cours de sa vie. Par contre, les gens ignorent le risque essentiel qui est la douleur post-ostérienne.
Et c'est pas contagieux?
Alors, c'est très peu contagieux. On peut pas dire que c'est pas du tout contagieux, parce qu'à la phase d'éruption, ça peut toujours être éventuellement contagieux à la phase d'éruption chez quelqu'un qui n'a jamais eu la varicelle. Donc, on peut considérer que c'est exceptionnel.
Juste une dernière question, professeur Akani. Quels sont les messages que vous avez envie de faire passer?
C'est déjà rassurer la population que cette maladie, c'est vrai, très douloureuse, mais qui, dans la prise en charge, peut se fait très bien, étant donné qu'on dispose de pas mal de molécules qui arrivent à soulager ces patients, aussi bien au niveau de la phase aiguë que de la phase chronique des séquelles douloureuses.
Et ce qu'on comprend bien, c'est qu'il faut venir consulter suffisamment tôt, et c'est vraiment ce qu'on a redit.
Surtout qu'il y a des spécialistes, et puis il y a des centres antidouleurs, au niveau de l'étendue du territoire. Donc les médecins sont suffisamment informés, ils ont eu la formation et on arrive à prendre en charge ces patients.
Et le diagnostic n'est pas très compliqué à faire. Merci beaucoup, hein, professeur Cani. Je rappelle que vous êtes chef du service de neurologie au CHU de Boaké en Côte d'Ivoire.
Priorité santé sur RFI.
Et aujourd'hui, nous parlons du zona avec le professeur Nadine Attal. Est-ce qu'on comprend un peu mieux, professeur Nadine Attal, dans les recherches qui sont menées sur le zona, pourquoi une crise se déclenche ou une phase aiguë se déclenche d'un seul coup, alors qu'on a bien compris, finalement, le virus est présent dans le corps, pourquoi d'un seul coup il sort ?
Alors, il y a quand même, oui, on comprend mieux effectivement pourquoi le zona aiguë se déclenche, puisqu'on a de plus en plus de travaux, notamment épidémiologiques, qui ont bien fait le lien entre une diminution d'immunité et le zona, et on comprend de mieux en mieux les mécanismes même de la douleur aiguë du zona, qui sont en fait des mécanismes d'extension de réactivation du virus varicelle zona, et ensuite il va y avoir une multiplication virale, il va y avoir des phénomènes d'inflammation, il va y avoir des phénomènes également neuropathiques, de névrite véritable à ce stade-là. Donc ça, c'est beaucoup mieux compris. Ce qui est en fait un peu moins bien compris à l'heure actuelle, c'est effectivement les mécanismes de la chronicité douloureuse. Il y a de plus en plus de travaux là-dessus. On sait qu'il y a des mécanismes au niveau du système nerveux périphérique lui-même, donc au niveau des nerfs eux-mêmes, mais qu'il y a aussi des mécanismes centraux, c'est-à-dire même au niveau de la moelle épinière, voire au niveau du cerveau. Alors ces mécanismes, on les explore également de plus en plus, y compris d'ailleurs chez l'animal, pour essayer de mettre au point des traitements plus innovants.
Est-ce qu'il y a un aspect psy dans cette maladie ? On entend souvent dire que la crise se déclenche à un moment de grand stress, de choc.
Alors totalement, on peut avoir, on en a parlé tout à l'heure, des zones aiguës liées à des baisses d'immunité, par exemple liées au VIH ou à des maladies comme le cancer, mais on peut aussi avoir des zones aiguës qui se déclenchent à l'occasion d'un stress psychologique, d'une émotion forte, d'un deuil, parce que là encore, le risque, c'est une baisse d'immunité liée au stress. Et puis, il faut aussi savoir que la douleur chronique du zona, donc la douleur post-ostérienne, s'accompagne très souvent d'une altération de la qualité de vie, mais aussi de symptômes anxieux, de difficultés de sommeil, voire d'un état dépressif.
Mais ça qui est beaucoup lié à la douleur, finalement.
Tout à fait. C'est-à-dire que la douleur elle-même ça peut entraîner véritablement un état dépressif. Et puis, les troubles anxieux, même préalables à un zona, peuvent aussi s'accompagner de davantage de douleurs. Donc il y a vraiment un lien entre les deux.
Le zona touche-t-il plus souvent les femmes que les hommes ?
Alors le zona aigu non, mais la douleur chronique, oui.
Et alors ça, est-ce qu'on sait un peu pourquoi ?
Alors on sait que la douleur chronique, en général, est plus fréquente chez les femmes, probablement, en général, hein, pas seulement la douleur neuropathique, ça a trait probablement à des phénomènes ou des facteurs hormonaux. Pour la douleur neuropathique, c'est un peu moins vrai, mais on a de façon générale un peu plus de femmes que d'hommes qui souffrent de douleurs neuropathiques.
On n'a pas encore parlé dans les traitements, on a beaucoup parlé des traitements au moment de la phase aiguë, des traitements de la douleur, on n'a pas parlé du vaccin. Qu'en est-il ?
Alors, on a depuis assez peu de temps les perspectives de vaccination en France. Il faut savoir qu'il existe désormais en Europe, dans beaucoup de pays européens et aux États-Unis, un vaccin à virus vivant atténué qui a déjà été commercialisé donc dans plusieurs pays de l'Union européenne et aux États-Unis, qui est donc utilisé maintenant dans ces pays. Et ce vaccin sera a priori prochainement disponible en France.
Alors quel est l'intérêt justement de ce vaccin ? À quel moment faut-il le donner ?
Alors l'intérêt évidemment de ce vaccin, c'est de prévenir le risque de zona et de prévenir le risque de douleurs post-ostériennes. Donc c'est un vaccin qui a quand même un grand intérêt parce que c'est la première fois qu'on peut empêcher ou tout au moins réduire le risque d'avoir une douleur chronique neuropathique, bon, post-ostérienne. Alors, pour ce qui est prévu en France, c'est de vacciner les seniors. En moyenne, ça serait 65-75 ans.
Systématiquement, même s'ils n'ont pas eu de zona.
Systématiquement, bien évidemment, qu'ils aient eu ou non un zona. Hein, on peut les vacciner même s'ils ont déjà eu un zona, mais là, il faut attendre. Et d'avoir éventuellement une utilisation 10 ans plus tard, donc une réutilisation du vaccin. Mais ça sera de toute façon une injection unique entre 65 et 75 ans. Évidemment, pas du tout obligatoire, mais un vaccin qui peut être recommandé.
Et quelle est justement la durée de vie de ce vaccin ? Il faudrait vacciner au bout de 10 ans après
En moyenne, on pense que c'est au moins 10 ans d'immunité.
Et justement, aussi, à quel moment vacciner ? On ne peut pas vacciner en pleine crise.
On ne peut pas vacciner en pleine crise, et comme c'est un virus, un vaccin à virus vivant atténué, on ne peut pas non plus vacciner les personnes qui sont en état cas actuel d'immunodépression, donc de baisse d'immunité, donc on doit attendre et ou alors vacciner les gens. C'est pour ça qu'on propose de vacciner les gens pas trop tard, là encore, parce que l'efficacité du vaccin diminue un peu aussi avec l'âge. Donc il vaut vraiment mieux vacciner les personnes, comme je l'ai dit, entre 65 et 75 ans.
Est-ce qu'il y a des recherches pour trouver d'autres vaccins aussi?
Alors il y a aussi un autre vaccin qui est en cours de validation par un autre laboratoire, qui est assez différent du vaccin à virus vivant atténué, puisque ça sera un vaccin qui contient un antigène et qui semble également extrêmement prometteur.
Voilà, et donc tout ça devrait arriver prochainement. Quelles sont les autres recherches qui sont menées sur le zona, particulièrement, je dirais, sur une meilleure prise en charge de la douleur? Et j'imagine aussi que ces recherches, elles concernent finalement l'ensemble des douleurs neuropathiques, pas simplement le zona.
Tout à fait. Alors, le vaccin, c'est quand même une approche extrêmement originale, parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir, hein. Donc, effectivement, ne pas avoir un zona aigu, c'est ne pas risquer aussi d'avoir la douleur chronique qui est insupportable. Lorsque, malheureusement, on a eu un zona aigu, qu'on a une douleur chronique, on doit évidemment utiliser un certain nombre des molécules dont on a parlé, mais qui sont pas toujours bien tolérées. On a les traitements topiques, et une des relatives nouveautés, c'est l'utilisation aussi de certains topiques qui contiennent ce qu'on appelle de la capsaïcine, qui est en fait un dérivé du piment. Ça, c'est assez nouveau. Ce sont des patchs qui peuvent être utilisés tous les 3 mois, parce que leur effet est rémanent pendant 3 mois.
Et
ça, c'est relativement nouveau.
Qu'on met où?
Qu'on met sur la zone douloureuse.
Sur la zone douloureuse.
Simplement, ce sont des patchs qui sont très chers et qui ne sont donc évidemment pas du tout disponibles dans tous les pays. Et je pense malheureusement qu'ils ne sont pas disponibles en Afrique. C'est des patchs extrêmement chers. Et pour l'instant, ils sont utilisables uniquement en milieu hospitalier.
D'accord. Mais ça donne de bons résultats?
Ça peut donner des bons résultats. Et surtout, l'avantage, c'est qu'on peut les donner chez des personnes très âgées, parce qu'il y a évidemment beaucoup moins de risques de troubles cognitifs ou de somnolence. Et puis, il y a énormément de recherches en cours actuellement chez l'animal et chez l'homme pour retrouver de nouvelles pistes thérapeutiques, et en particulier des traitements agissant sur de nouvelles cibles thérapeutiques qui n'ont pas été encore explorées à ce jour. Donc il y a quand même beaucoup de pistes thérapeutiques potentielles actuellement.
Je voudrais qu'on revienne sur la question des risques de complications. On a bien compris, après la phase aiguë, le risque principal de complications, c'est la douleur. Mais est-ce qu'il y a d'autres complications, particulièrement dans le zona ophtalmique, qui peuvent arriver?
Alors bien entendu, le risque de zona ophtalmique, c'est aussi la complication ophtalmique elle-même, hein, c'est-à-dire un risque majeur de kératite, donc d'atteinte de la cornée, d'atteinte même du nerf optique. Donc ça, c'est un risque majeur. Et le zona ophtalmique, c'est une urgence, hein. Donc il faut absolument consulter en urgence, parce que le risque ophtalmique est extrêmement grand, avec même un risque de perte de la vision. Après, on a des complications heureusement beaucoup plus rares, mais on peut avoir, et ça a été décrit, des encéphalites, hein. C'est-à-dire, comme dans la grippe, des complications neurologiques centrales, méningo-encéphalite, méningite, qui sont très rares, mais qui peuvent être extrêmement sévères. Et ces complications surviennent plus souvent chez des personnes immunodéprimées qui ont un zona.
Avant de parler du colloque qui se déroule en ce moment à Casablanca sur le mariage des enfants, j'aurais quand même une dernière question à vous poser. C'est sur le congrès qui s'est déroulé la semaine dernière à Nice, sur les douleurs neuropathiques en général. Donc vous avez parlé du zona, mais de l'ensemble des douleurs neuropathiques. Vous avez quoi? Fait le point justement sur les avancées dans les recherches?
Alors c'est un congrès qui a permis effectivement de mettre à jour toute l'actualité dans les douleurs neuropathiques. Et donc c'était un congrès qui était très large. Il y avait notamment énormément de symposiums sur les actualités chez l'animal, les nouveaux traitements en cours, les nouveaux mécanismes qu'on essaie d'explorer chez l'animal, et puis chez l'homme également, bien sûr, comment mieux évaluer ces douleurs, comment mieux les prendre en charge, les liens entre ces douleurs et les facteurs psychologiques. Tout ça a été abordé au cours de ce congrès.
Et on avance dans la prise en charge de la douleur, quand même.
Et on a quand même beaucoup progressé ces dernières années dans la prise en charge de ces douleurs qui étaient très souvent jugées totalement rebelles à tout. On a quand même beaucoup progressé, même si de nombreux progrès restent à faire.
Merci beaucoup, hein, professeur Nadine Attal. Je rappelle que vous êtes responsable du Centre de lutte contre la douleur, hein, au CHU Ambroise-Paris à Boulogne-Billancourt. Merci beaucoup d'être venu nous parler du zona. Vous revenez quand vous voulez. Une maladie, non, mais beaucoup plus importante et fréquente que ce qu'on imagine quand on prépare une émission sur ce sujet. Et on va terminer en parlant du mariage des enfants.
Priorité santé sur RFI.
Et pour terminer, je vous propose donc de parler de la rencontre internationale consacrée au mariage d'enfants qui a lieu en ce moment à Casablanca, au Maroc. Françoise Moudout, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct dans Priorité Santé, d'être sortie du congrès pour nous parler. Vous êtes responsable de plaidoyer en Afrique de Girls Not Brides. D'abord, je voudrais avant que vous nous expliquiez ce qu'est ce partenariat Girls Not Brides, quels sont les risques pour la santé du mariage précoce, du mariage d'enfants d'adolescents?
Alors, les risques pour la santé sont pour les filles, premièrement, un risque vraiment physique lié à la grossesse. Les filles sont poussées au mariage et donc à devenir mères bien avant que leur corps autant leur qu'est-ce qu'elles s'apprêtent à porter des enfants, elles ont elles-mêmes des enfants. Elles sont donc plus vulnérables aux complications, notamment la fistule obstétricale. Elles sont cinq fois, une fille qui est âgée de moins de 15 ans est cinq fois plus susceptible d'être malade, de décéder pendant sa grossesse ou son accouchement. Elles sont, parce qu'elles se marient tôt, elles commencent à avoir des enfants tôt, elles ont souvent beaucoup plus d'enfants, alors qu'elles sont elles-mêmes des enfants, donc ces risques sont répétés autant qu'elles ont la possibilité d'être enceintes.
Donc il y a un risque donc, pour la santé physique qui est vraiment très important, oui. C'était important de le rappeler dès le début, c'est bien pour ça que vous intervenez dans une émission de santé. Il y a aussi un risque pour la santé psychique.
Absolument, parce que ces filles sont plus exposées à la violence domestique. Elles sont très souvent mariées avec des hommes qui sont bien plus âgées, face auxquels elles ont peu de façon de se défendre. Elles sont aussi plus à risque en termes de santé psychologique, si on peut dire, par rapport souvent à leur belle famille, parce qu'elles sont vraiment très très jeunes, mises dans des familles qui ne les respectent pas nécessairement. Et elles y sont souvent maltraitées, elles n'ont aucune façon de réaliser leur potentiel, elles ne vont plus à l'école, donc vraiment elles sont de plus en plus isolées. Ça, rien que cet isolement-là est une vraie violence psychologique.
Vous parlez d'ailleurs d'une violation des droits humains.
Absolument. La plupart des conventions internationales que nos gouvernements ont signées interdisent le mariage de toute personne qui est âgée de moins de 18 ans. Malheureusement, donc ça c'est un droit que nous avons tous et que ces filles ont toutes. Malheureusement, ce droit est bafoué tous les jours. Et tous les jours, des centaines et des milliers de filles sont mariées. 15 millions de filles par an, de par le monde, sont mariées chaque année. C'est... disons, dans les 5 minutes que durera notre conversation, près de 150 filles qui seront mariées de force.
15 millions de filles mariées, justement, en dessous de l'âge de 18 ans dans le monde, tous les ans. Où se produisent plus particulièrement ces mariages? Le continent africain est assez concerné.
Oui. Le mariage des enfants concerne tous les pays dans le monde à une échelle variée. Effectivement, le continent africain est particulièrement affecté, notamment dans la région du Sahel, les pays comme le Niger, par exemple, où trois filles sur quatre sont mariées avant l'âge de 18 ans.
Trois filles sur quatre au Niger, hein, vous dites bien, oui, ça. Trois filles sur quatre sont mariées avant l'âge de 18 ans.
Oui, absolument. Mais d'autres pays également, comme le Mozambique, le Nigeria, le Burkina Faso, le Soudan. Il n'y a pas un seul pays en Afrique qui n'est pas concerné par la question du mariage des enfants. Certains ont des taux très élevés, d'autres ont des taux moins élevés, mais je pense sincèrement que pour chaque fille qui est mariée dans un pays, c'est une vraie tragédie qui se passe pour elle en termes de santé, comme on a vu, mais aussi parce que ça réduit son accès à l'éducation. Ça lui met un frein total à son potentiel.
Et quelles en sont les causes? L'excuse à chaque fois, c'est quoi? C'est la tradition?
Ça peut être la tradition. La tradition, effectivement, on se dit, oui, ça fait longtemps qu'on se passe chez nous, c'est enraciné, c'est comme ça qu'on fait et personne ne va s'y opposer. Mais c'est aussi la pauvreté. Très souvent, dans les familles qui sont dans une situation d'extrême pauvreté, on a l'espoir que marier la fille va réduire nos dépenses dans le foyer, on a moins une personne de moins à nourrir, quelqu'un d'autre pourra mieux s'occuper d'elle. Enfin, il y a la question de la sécurité. Très souvent, les parents marient leur fille en pensant agir dans leur intérêt, en se disant qu'elle sera moins à risque d'être violée dans la rue, et sachant pas qu'en fait, elles sont tout simplement violées à la maison.
C'est ça, il faut expliquer du coup. Justement, quel est le rôle de ce partenariat mondial pour la fin des mariages des enfants, dont vous êtes responsable du plaidoyer en Afrique, vous, de ce Girls Not Brides?
Alors, Girls Not Brides, en français, ça veut dire fille, pas épouse. Et nous rassemblons plus de 450 organisations de la société civile, venant de plus de 70 pays dans le monde. Et ensemble, nous travaillons à mettre fin au mariage des enfants et permettre donc à ces filles de réaliser pleinement leur potentiel. Donc, nous avons des organisations ici à Casablanca qui viennent du Bangladesh, du Maroc, de Tunisie, du Soudan, etc. Et ensemble, nous travaillons premièrement à mettre nos expertises ensemble et qu'on apprenne comment approcher cette question selon les contextes dans lesquels nous travaillons, mais aussi avoir un plaidoyer commun. Nous pensons vraiment que travailler ensemble, parler ensemble, nous donne une voix plus forte Et ça nous permet d'être entendus. Et nous voyons effectivement des progrès grâce à cette voix plus forte que nous avons. Nous voyons une volonté politique plus importante, notamment en Afrique, mais aussi au niveau international avec une récente résolution de l'ONU, au niveau régional en Afrique avec une récente campagne lancée par l'Union africaine, et au niveau national avec de plus en plus de pays qui décident d'aborder cette question de façon plus importante. Nous sommes maintenant là pour dire merci pour la volonté politique, il était temps. Maintenant, il faut passer de la volonté politique à l'action et arriver à un vrai changement dans la vie quotidienne de ces jeunes filles.
On a beaucoup parlé des pays d'Afrique là-dessus. L'Asie est aussi concernée. Je pense entre autres au Bangladesh où j'étais il y a quelques années en reportage et où manifestement il y a aussi beaucoup de mariages d'enfants.
Oui, le Bangladesh est concerné. L'Asie du Sud en particulier, le Bangladesh, l'Inde sont des pays qui sont concernés et où c'est vraiment important de prendre en charge cette question parce que les populations sont très importantes. Donc effectivement, des pourcentages, même s'ils sont à 30, 40, 50%, ça représente un nombre important.
Beaucoup de filles. Merci beaucoup, Françoise Moudoud, de nous avoir alerté sur ces questions. On essaiera de refaire prochainement une émission complète sur cette question du mariage des filles et des dangers pour la santé. Merci beaucoup d'être intervenue. Bonne conférence à Casablanca, au Maroc. Demain, on parlera de la rivalité père-fille. Vous savez qu'on a longtemps parlé de la rivalité père-fils. Et puis, depuis que les femmes travaillent, réussissent, et on s'aperçoit que cette rivalité, elle peut tourner aussi entre père et fille. Un téléphone si vous avez envie de participer, le 33 1 84 22 75 75. Bien sûr aussi Facebook pour nous laisser des messages. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé et à demain.